Bonjour à tous. Ravi de vous voir avec ce temps un peu ensoleillé, ça fait du bien. Nous continuons ce matin notre série sur Tite que nous avons ouvert il y a quelques dimanches maintenant avec ce thème, le but de l'enseignement dans l'Église. Le but de l'enseignement dans l'Église. Hop, petit ajustement. Okay. Pour le chrétien évangélique, l'un des éléments les plus importants recherchés dans l'Église, c'est son enseignement. Et d'ailleurs, reconnaissons-le, la prédication dans nos cultes tient une place particulièrement privilégiée. Comme quoi l'enseignement, ça compte, mais aussi dans les divers groupes d'activités, on apprécie toujours avoir un enseignement biblique, un enseignement sur la parole de Dieu. Enseignement, mais pour quel but ? Enseignement pour en apprendre plus sur le Dieu qui nous a sauvés, en apprendre plus sur sa volonté, qui est souvent une grande question, mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi ? En apprendre plus aussi sur nous-mêmes, car Dieu nous parle de l'homme, de sa créature et de comment nous sommes. Tout cela pour obtenir des réponses à des questions que l'on se pose, etc., etc. En fait, les buts de l'enseignement évangélique, ils sont multiples. Ce matin, nous allons nous interroger sur les raisons qui nous animent pour recevoir un enseignement à l'Église, mais aussi sur les composants de cet enseignement, son contenu. Et le volet, ce matin, il est double. Il a d'abord un aspect personnel sur les enseignements de l'Église. Ce que je cherche au fond de moi par ces enseignements, ce que j'aime entendre, mes interrogations aussi. Autrement dit, c'est l'aspect de celui qui reçoit l'enseignement. Et l'autre aspect, il concerne l'enseignant de l'Église. Ce qui est apporté, le contenu du message, sa doctrine. Autrement dit, c'est l'aspect de celui qui dispense l'enseignement et le contenu de celui-ci. C'est une vraie question que se posent les responsables d'Église. Qui peut enseigner dans l'Église ? Alors, dimanche dernier, nous avons continué notre série sur Tite avec notamment pour objectif de réfléchir au sujet des responsables d'Église. Et dans un premier temps, nous avions vu ensemble les prérequis à cette noble tâche et les caractéristiques qui la composent. On les avait vus, il y en avait pas mal, hein. On s'est penché sur chacun d'entre elles. Et maintenant, nous allons voir la mission principale, et j'insiste sur le principal, parce que souvent on considère que ce n'est pas leur mission principale, mais c'est bien ce que dit l'Écriture. Mission principale de ces responsables d'Église par rapport à une problématique que rencontre l'Église de Crète, mais qui ne lui est pas spécifique. Car c'est une problématique malheureusement fréquente, une problématique récurrente dans l'Église universelle, les enseignants de mensonges. Pour comprendre ce qui se passe en Crète, penchons-nous sur le fonctionnement de l'Église là-bas, au moment où l'apôtre Paul rédige cette lettre à l'intention de Tite. On va essayer de creuser dans d'autres textes pour essayer de comprendre comment l'Église de Crète, elle fonctionne, un peu comme avoir un état des lieux de l'Église de Crète. Alors, malheureusement, Paul ne nous en a pas dit grand-chose. Nous n'avons pas le contexte précis de cette Église, mais il est fort probable qu'elle avait adopté un fonctionnement à la liberté de l'esprit. Et c'est un fonctionnement qu'on peut encore retrouver dans certaines églises. On le trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26. Donc c'est Paul qui parle et qui dit ceci. « Comment donc agir, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez, l'un chantera un cantique, l'autre aura une parole d'enseignement, un autre une révélation. Celui-ci s'exprimera dans une langue inconnue. Celui-là en donnera l'interprétation. Que tout cela serve à faire grandir l'Église dans la foi. Les hommes avaient la liberté de prendre une part active au déroulement des réunions selon la direction de l'Esprit-Saint, d'où la notion de fonctionnement à la liberté de l'Esprit. C'est un fonctionnement qu'on peut retrouver dans nos jours dans certaines églises, notamment, alors ça fait un peu péjoratif de dire comme ça, mais les frères dits étroits, les darbistes, Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion une fois d'aller dans un culte d'arbistes. Moi, je ne l'ai fait qu'une fois et c'est un peu ce que j'ai pu voir là-bas. En fait, ce n'est pas vraiment préparé. Chacun, l'un va se lever et dire « Voilà, cette semaine, j'ai médité sur tel texte, je vous partage ma méditation. » Un autre va vouloir chanter un chant et puis du coup, toute l'assemblée va le chanter. Et c'est un peu ce fonctionnement-là qu'on retrouve en 1 Corinthiens, que dit Paul, c'est un fonctionnement qui est noble, hein, et que l'on peut retrouver dans certaines églises, ça et là encore, de nos jours. Cette manière de faire permet au Saint-Esprit de parler par plusieurs membres de l'assemblée et de rendre les participants acteurs du culte, pas seulement spectateurs, mais d'en être vraiment des acteurs. Présenté comme ça, tout va bien, tant que, dit quand même l'apôtre Paul, cela sert à faire grandir l'Église dans la foi. Et en fait, cette notion-là, c'est celle qui est la plus importante. Car nous le savons, la nature humaine étant corrompue par le péché, des hommes en abusent en avançant de fausses doctrines qui n'édifient pas, qui sont tatillons, qui divaguent sans fin sur toutes sortes de sujets, de débats. En fait, des gens qui sont dépourvus de l'Esprit de Dieu. Tite est alors chargé par Paul d'établir dans chaque église des responsables compétents pour empêcher ces abus. C'est ce qu'on avait lu déjà la fois précédente. Je nous propose donc ce matin deux étapes face à un faux enseignant. La première, c'est de reconnaître un enseignant de mensonge. Et ça, on est tous concernés. On doit tous avoir cet esprit critique. Et la deuxième, c'est de réfuter. Et j'ai ajouté dans l'amour. Réfuter dans l'amour. Réfuter, ça en est bon. Dans l'amour, c'est parfois un peu plus difficile. Réfuter dans l'amour. Après avoir introduit ainsi les choses, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Tite. Alors, c'est une petite épître pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore bien vos Bibles, pour le trouver. Ça se trouve plutôt vers la fin de la Bible. Ça se trouve avant les épîtres de Jacques et d'Hébreux, qui sont un peu plus grosses. Donc vous allez trouver Philémon, qui est toute petite juste avant. Et c'est juste avant Philémon. Et si vous venez un peu de l'autre côté, bah vous allez tomber sur 1, 2 Thessaloniciens, 1, 2 Timothée. Et c'est juste après Timothée. Petite épître adressée à Tite. J'en fais la lecture. Alors là, j'ai mis au verset 10, mais je vais relire au verset 9 parce qu'en fait, le verset 10 commence par un car. Donc ça sous-entend qu'avant, il y a eu un petit développé. Je reviens très succinctement dessus avec le verset 9. Donc, Paul est en train de donner la liste à Tite des caractéristiques qu'il doit chercher pour les anciens. Qu'il soit fidèlement attaché à la parole certaine, qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. Donc, il parle là des responsables. Ainsi, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement saint et de réfuter les contradicteurs. On s'est arrêté là. Car nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre à la vérité. Ils profèrent des discours creux et entraînent les gens dans l'erreur. On en trouve surtout parmi les gens issus du judaïsme. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour s'assurer des gains malhonnêtes. Un Crétois qu'ils considèrent comme un prophète a dit « Les Crétois ont toujours été menteurs, ce sont des bêtes méchantes, des gloutons et des fainéants. Voilà un jugement qui est bien vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement pour qu'ils aient une foi saine. » En ne s'attachant pas à des récits juifs de pures inventions et à des commandements provenant d'hommes qui se sont détournés de la vérité. Pour ceux qui sont purs, tout est pur. Mais pour des hommes souillés et incrédules, rien n'est pur. Leurs pensées et leurs consciences sont souillées. Certes, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs actes, car ils sont détestables, rebelles et se sont disqualifiés pour toute œuvre bonne. On va s'arrêter là. Reconnaître un enseignant de mensonge. On connaît tous cette phrase de Victor Hugo, « Dis-moi qui tu aimes et je te dirai qui tu es ». Je vous propose une nouvelle version ce matin. « Dis-moi ce que tu enseignes et je te dirai qui tu es ». Pour bien comprendre à qui nous avons affaire, regardons ce que l'apôtre pense de leur discours. Ils sont séduisants, mais creux. Dépourvus de bénéfices spirituels et qui induisent en erreur. Ce n'est pas parce qu'un prédicateur parle bien, qu'il présente bien, costume trois pièces, de marque, etc., qu'il a du charisme, que son discours est enveloppé de belles illustrations, de belles phrases, que c'est un bon enseignant. Des enseignants comme ça, on en trouve à l'appel, pas seulement sur Internet, mais aussi dans des églises à quelques kilomètres d'ici. Il y en a beaucoup malheureusement en Île-de-France. Des gens qui se présentent comme pasteurs, révérends, prophètes, évangélistes, docteurs et même apôtres, puis avec des titres un peu farfelus, archibishop, je ne sais quoi. Tant qu'on se fait mousser, hein, prenons le tout. Ils sont présentés comme des invités de marque lors de soirées spéciales ou de cultes tous plus extraordinaires les uns que les autres, mis en tête d'affiche avec un costume classe qui présente bien. Vous avez peut-être en tête des belles images que vous avez vues sur les réseaux sociaux. De telle date à telle date, grande soirée de la délivrance avec l'archibishop, machin, le pasteur truc, et puis ils sont tous là, bien présentés. Ah, ça vous fait rire. La suite est moins drôle. Peut-être vous voyez de quoi je parle. Vous avez peut-être vu ces images. Il y en a pléthore encore en Île-de-France, hein, ça. Hein. Pas loin, il n'y a pas besoin d'aller dans des pays, etc. Hein. Ils sont présentés comme des invités de marque lors de soirées spéciales. Ça, je l'ai dit. Ah, l'apparence. L'apparence. C'est intéressant parce que quand on voit quelqu'un comme ça, on se dit que lui, il est important. Qu'il parle au nom du Seigneur. Et donc, il faut écouter et boire toutes ses paroles et les considérer peut-être même comme inspirées par l'Esprit Saint. Mais quand on écoute attentivement, que l'on évalue ce qui est dit à la lumière de l'Écriture. Moi, je l'ai fait. Hein. Je suis coltiné une fois. C'était lourd, hein. Mais surtout, c'était vide. Il n'y avait rien. Parfois, de temps en temps, un verset comme ça. C'est souvent des gens qui font les allers-retours là, sur les trucs, ils parlent comme ça, ils se baladent, et puis à un moment, hop, ils sortent un verset. Et puis, bien entendu, il est hors de son contexte. Le verset ne veut pas du tout dire ça. En fait, ils s'en servent comme prétexte. Des versets seuls, quand il y en a, complètement tirés de leur contexte et utilisés comme outils dans l'unique but d'appuyer la pensée de celui qui parle. Parfois, la lecture de la parole se limite à l'introduction de la prédication, puis ensuite, on n'y revient plus. Et on parle pendant 2 heures d'un truc qui n'a rien à voir avec le texte que l'on vient de lire. Souvent, ils préfèrent utiliser des histoires ou des témoignages pour légitimer leur discours, mais en les interprétant à leur guise. C'est ce que j'appelle de la manipulation. Manipulation, mais pourquoi ? Mais pour la considération. Je suis quelqu'un d'important qu'on écoute, ça me donne du pouvoir, ça me donne de l'argent. M'inviter coûtera cher et je prendrai une bonne partie de l'offrande pour mon ministère. Car très souvent, ils ont le My Ministries et puis avec leur nom derrière et puis on peut donner à leur ministère particulièrement. Sous couvert d'œuvrer pour Dieu, mais en fait pour s'enrichir personnellement. Et à cette manipulation, beaucoup diront en cœur « Amen, Amen ». Vous avez vu ça? Ils disent plein de choses et puis les gens dans l'assemblée disent tous « Amen, Amen ». Pourquoi? Parce que le message qu'ils entendent leur fait plaisir. On leur vend du rêve, la richesse, la guérison, le retour de l'être aimé, la promotion au travail. Tiens, c'est presque comme sur les petites cartes, là, vous savez, des marabouts là, qui vous mettent là, dans la boîte aux lettres. Retour de l'être aimé garanti en 2 heures, etc. En fait, on n'en est pas loin hein, quand on réfléchit. Et si ça ne fonctionne pas, la réponse est déjà toute prête. Ah, c'est parce que tu as manqué de foi et que tu n'as pas donné, ou que tu n'as pas donné assez d'argent. On n'est pas loin en fait d'un retour aux indulgences de l'Église catholique romaine. Mais ce n'est sûrement pas parce que le message n'était qu'un mensonge. Et pourtant. Dans l'église de Crète, les faux enseignants poussent par leurs discours les enfants de Dieu à observer les lois rituelles de l'Ancienne Alliance. Ce qui revient en fait à nier la toute suffisance de l'œuvre du Christ. Leur message fait appel aux tendances légalistes de l'homme, lui faisant croire qu'il pouvait mériter la bienveillance de Dieu en accomplissant certains rites religieux, tout en vivant d'une manière corrompue et impure. En fait, c'est exactement ce que font les autres religions. Faire de bonnes œuvres, accomplir des rites religieux, dans le but d'obtenir une forme d'indulgence de la divinité, pour avoir le salut. Pourquoi ils agissent ainsi? Leur objectif est dévoilé. L'apôtre Paul le dit, c'est s'enrichir financièrement. Ils utilisent leur ministère comme une façade pour gagner de l'argent. Ils enseignent pour un gain honteux ce qu'ils n'ont pas le droit d'enseigner. Alors pourquoi cet enseignement va à l'encontre de l'Évangile? C'est important de le rappeler. La parole nous enseigne que Christ a tout accompli pour nous. Tout accompli. C'est pas « j'ai accompli 90% et puis tu as 10% à faire ». Non, tout est accompli. Nous bénéficions du salut parce que Christ a vécu la vie de parfaite obéissance que nous aurions dû mener. Nous bénéficions du salut parce que Christ est mort pour nos péchés. Nous bénéficions du salut parce que Christ est ressuscité pour notre justification. Là, vous pouvez dire « Amen ». Enseigner que cette œuvre salutaire n'est pas suffisante, mais qu'il faut ajouter à cela, à ce que Christ a déjà fait pour nous, revient à replacer ceux qui croient ce message sous la loi et non plus sous la liberté que Christ nous a acquise. En fait, c'est une négation insidieuse de l'Évangile. Paul met en lumière les agissements de ces enseignements de mensonge. Il donne leurs motifs. Verset 11, je le relis. « Il faut leur fermer la bouche car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour s'assurer des gains malhonnêtes. » Pour s'assurer des gains malhonnêtes. On comprend mieux pourquoi Paul demande à ce que les anciens ne soient pas avides de ce gain-là. Verset 7. Il est nécessaire qu'un dirigeant d'église soit irréprochable puisqu'il a responsabilité de la famille de Dieu. C'est pourquoi il ne doit être ni imbu de lui-même, ni coléreux, ni buveur, ni querelleur, ni attiré par des gains malhonnêtes. C'est une qualité qui doit être recherchée. Deuxièmement, le contenu. Verset 9, « Ils enseignent ce qu'il ne faut pas. » Ça n'a rien à voir avec ce que Paul demandait aux anciens, quand il dit, verset 9, ce qu'on a lu, « qu'il soit fidèlement attaché à la parole certaine, qui est conforme à ce qui lui a été enseigné, ainsi il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement saint et de réfuter les contradicteurs. » On a le motif, le contenu, et on a aussi les conséquences. Des familles entières sont bouleversées. Ce texte doit nous servir à tous d'avertissement. La fausse doctrine entre secrètement dans l'assemblée. Elle grandit rapidement, puis elle se répand partout. Maintenant que nous avons pris le temps d'évaluer leur discours, qu'est-ce que ça nous dit des enseignants? Autant vous dire que le tableau n'est pas bon du tout. À leur propos, Paul cite le philosophe et poète crétois Épiménide de Cnossos, qui vivait autour du VIe siècle avant Jésus-Christ. Ce poète qualifie les Crétois de menteurs incorrigibles, de bêtes méchantes, de gloutons et de fainéants. C'est le verset 12. Et Paul répond quoi à cela? Verset 13, « Voilà un jugement qui est bien vrai. » La réputation des Crétois n'est pas bonne, on l'avait dit. C'est la réputation d'être des menteurs invétérés et accoutumés, celle de se vautrer dans des passions vulgaires et déréglées, comme s'ils étaient des animaux sauvages. Ils pouvaient se montrer rudes et cruels. Ils étaient de grands mangeurs et de petits travailleurs. Le fait que Paul mentionne l'ascendance juive de ses enseignants n'est pas anodine. Cela donne du contexte pour leur discours. Ils s'attachent à des spéculations juives et à des commandements d'hommes qui se sont détournés de la vérité. Autrement dit, ils ajoutent à la foi chrétienne des éléments supplémentaires tels que des spéculations sur les origines des descendants des patriarches. Il y avait débat dessus, alors ils nourrissent le débat. des règles alimentaires concernant la pureté, je vais y revenir un peu plus tard, ou encore l'observation de jours spécifiques, on remet le sabbat, etc., etc. Et enfin, la fameuse circoncision. Finalement, l'objectif est de faire des chrétiens des juifs, se situant à cheval entre ancienne et nouvelle alliance. Rappelez-vous l'objectif défini par Paul en 1 Corinthiens 14, 26 qu'on a lu tout à l'heure, que tout cela serve à faire grandir l'Église dans la foi. À une époque, il y a longtemps, maintenant, je m'étais posé la question, en fait, quand je prêche, c'est quoi le but que je recherche? Alors, on peut dire que chaque prédication a un peu le but recherché. Mais il doit toujours avoir un but commun à toutes les prédications, tous les messages qu'on apporte. Faire grandir l'Église dans la foi. C'est à ça qu'on reconnaît une prédication. Est-ce qu'elle me fait grandir dans la foi? Et c'est ça le but de l'enseignement dans l'Église. Nous faire grandir chacun d'entre nous, au niveau là où on se situe, mais qu'on grandisse tous dans la foi. C'est ça le but que nous, enseignants, on recherche pour vous. Vous faire grandir, chacun d'entre vous, là où vous êtes, dans la foi avec votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que ces règles supplémentaires qui sont ajoutées là par ces enseignants servent à faire grandir l'Église dans la foi? Non seulement cela n'est d'aucune utilité pour la foi, mais plus encore, elle l'amoindrit. Car elle supprime à l'œuvre salvatrice du Seigneur toute sa substance pour nous. Elle rend la foi en Jésus-Christ presque caduque. En fait, ces enseignants sont plus attachés à ce qui est apparent, extérieur, plutôt que d'être attachés à ce qui relève du cœur. Alors, permettez-moi de revenir sur la notion de pureté et d'impureté au verset 15. Je le relis. « Pour ceux qui sont purs, tout est pur. Mais pour des hommes souillés et incrédules, rien n'est pur. Leurs pensées et leurs consciences sont souillées. » Voyez comment un enseignant de mensonge peut détourner un verset de son contexte pour lui faire dire n'importe quoi. Alors là, c'est une mise en situation ce que je fais, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Un prédicateur qui mettrait en avant que l'on puisse regarder des films pornographiques, si vous êtes pur, car il est écrit dans Tite, « Pour ceux qui sont purs, tout est pur. » Amen. Ah, c'est bien, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est ce qu'est en train de dire Paul là? Évidemment que ce n'est pas pur. Le Seigneur l'avait déjà expliqué en Marc 7, versets 20 à 23. Donc c'est Jésus qui parle. Et il ajouta, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises, l'immoralité, le vol, le meurtre, les adultères, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. La pureté est intérieure. Elle n'est pas extérieure. Elle n'est pas simplement en apparence. Le péché, c'est une notion parfois qui n'est pas toujours claire pour tous. Mais c'est la corruption de tout notre être. Tout notre être. Ce qui inclut nos pensées, notre conscience, notre intelligence. Ça veut dire que même quand on réfléchit à la Bible, il y a la corruption du péché qui entre en jeu dans notre compréhension qu'on en a. C'est pour ça qu'on a besoin de l'aide de l'Esprit. La pureté est intérieure, pas extérieure. Le sujet n'est donc pas la pureté cérémonielle et extérieure, mais bien l'impureté intérieure, celle qui motive nos mauvaises actions. Ce dont l'homme a besoin, c'est d'être converti, de recevoir le don du salut gratuitement, plutôt que d'essayer de le mériter par des rites et du légalisme. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs actes. Ils prétendent connaître l'Évangile, mais ils le renient par leur discours. Ils sont donc disqualifiés pour toute œuvre bonne. Leur piété apparente peut tromper ceux qui la constatent, mais aux yeux de Dieu, elle ne compte pas. Ils corrompent l'Évangile en déshonorant la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus et en induisant des âmes en erreur. Face à de telles personnes, la discipline s'impose. C'est mon deuxième point, réfuté dans l'amour. Travailler avec ce type de personne a de quoi décourager. Face à de tels enseignants, la réponse de l'apôtre est directe, cinglante. Il faut leur fermer la bouche. La liberté de parole accordée par ce fonctionnement cultuel dont on a parlé, 1 Corinthiens 14, il a ses limites. On ne peut pas dire n'importe quoi. Paul demanda-t-il de les reprendre sévèrement ? C'est intéressant car c'est un fonctionnement qui est peut-être plus trop à la mode au XXIe siècle, dans lequel on accepte tout, sous couvert d'amour. Je l'ai encore lu cette semaine dans un commentaire. Il y avait apparemment, il s'est passé. La FPF a produit un document sur les LGBT, etc. Un document que je n'ai pas lu, je reconnais. Et puis, apparemment, ils étaient un petit peu plus fermes, visiblement, dans le document. Bon, soit. Et du coup, j'ai ouvert la section commentaires et puis j'ai sorti le pop-corn. Et puis là, premier argument avec le plus de likes. Oui, c'est quand même triste, c'est pas comme ça qu'on va aimer ces personnes. Ah, l'argument de l'amour. L'argument fort qui nous ferme à tous la bouche. Ah bah, il a sorti l'amour, on ne peut plus rien dire. Oui, mais aimer quelqu'un, c'est aussi lui dire quand ça ne va pas. Laisser la personne errer dans sa souffrance, dans son péché, c'est pas l'aimer, hein. C'est marrant comme la conception de l'amour, elle peut être différente d'un individu à l'autre. Il faut leur fermer la bouche et les reprendre sévèrement. Et pourtant, c'est bien par amour que Paul demande à Tite d'agir ainsi. Car si la discipline n'a rien d'agréable, elle est nécessaire et se révèle salutaire. Voici une autre caractéristique du responsable d'église. Agir avec amour. Mais en fait, je vous rappelle que cette caractéristique ne concerne pas que les anciens. Nous sommes tous concernés par l'amour et nous devons tous chercher à agir en mettant notre amour en pratique. Aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci, tous reconnaîtront que quoi ? Que vous êtes mes disciples. On est tous concernés. Notons pourquoi Paul demanda-t-il de les reprendre sévèrement. Pour qu'ils aient, verset 13, une foi saine. Et cette information, elle est fondamentale. Paul ne les considère pas comme perdus et ne conseille pas à Tite de les abandonner ou de les rejeter. Écoute, tu les reprends et puis tu les jettes dehors et puis on n'entend plus parler. Ce n'est pas ce qu'il demande. Il dit, reprends-les sévèrement, ferme-leur la bouche pour qu'ils aient une foi saine. L'objectif, ce n'est pas qu'ils s'en aillent. L'objectif, c'est que leur foi s'assainit, qu'ils soient confrontés à la saine doctrine pour les réorienter, les recadrer, pour qu'ils aient une foi saine. Car l'Évangile est toujours un espoir, même pour le pire des hommes. Et nous ne savons pas si un jour ces enseignements de mensonges ne deviendront pas des croyants exemplaires. Et pourquoi pas ? Peut-être des anciens au service de la vérité et non du mensonge à des fins pécuniaires. Si le cadre est dur et disciplinaire, l'objectif est rempli d'encouragement. Dieu peut transformer n'importe quel cœur et il peut même utiliser les responsables de l'Église pour cela. En conclusion, Paul demande à Tite d'établir des responsables dans l'Église de Crète afin qu'elle résiste à l'influence de l'enseignement erroné qui s'y répand. Il faut donc avoir du discernement et de la sagesse pour évaluer justement les choses. Celui qui reçoit un enseignement dans l'Église doit s'interroger sur ce qu'il ou elle recherche. Un message qui nourrit mon moi ou un message qui nourrit ma foi? Un message qui nourrit mon moi ou un message qui nourrit ma foi? Celui qui le dispense doit se demander si ce qu'il apporte servira à faire grandir l'Église dans la foi et réfutera les contradicteurs dans la conformité à la saine doctrine. Nous tous, nous devons évaluer à la lumière de l'Écriture ce que nous entendons et ne pas considérer les beaux discours pour vrais sans se poser de questions. Les anciens ont une responsabilité toute particulière en ce domaine car ils prennent du temps pour étudier cette saine doctrine. Il leur revient de réfuter un enseignement erroné et de reprendre celui qui l'a dispensé avec fermeté. Mais cette fermeté doit être mue par l'amour et la recherche de susciter une foi saine dans le cœur de celui qui est repris. L'enseignement occupe une place principale dans nos églises évangéliques, on l'a dit en introduction. Mais il n'est pas rare que certains s'adjugent un rôle d'enseignant pour de mauvaises raisons. Le message de ce matin constitue un avertissement pour chacun d'entre nous. Que Jésus-Christ, notre Seigneur, garde son Église de ses enseignants de mensonges et qui lui donne des responsables fidèles, fidèles au Seigneur Jésus-Christ et fidèles à sa parole. Amen.